Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Comme tous les mercredis en deuxième heure, nous revenons sur le parcours d'un voyageur d'hier qui a marqué son époque. Aujourd'hui, c'est sur les pas d'un romancier, journaliste, cinéaste, mais surtout poète tout-terrain que nous vous emmenons, Blaise Cendrars. Le terme bourlingué qu'il a popularisé va comme un gant à cet insatiable voyageur, engagé dans un mouvement perpétuel, Russie, États-Unis, Afrique, Amérique du Sud. Nous aurons peut-être un peu de mal à le suivre dans ses pérégrinations, car il n'a cessé de brouiller les pistes, proposant des récits contradictoire et fantaisiste de sa vie et de ses voyages. Pour nous aider à nous y retrouver et tenter d'approcher cet auteur énigmatique et fantasque, nous avons fait appel à un fin connaisseur de sa vie et de son œuvre, Claude Leroy, professeur émérite de l'université Paris-10-Nanterre. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur Blaise Cendrars, comme par exemple l'essai dans l'atelier de Cendrars chez Honoré Champion. Il a récemment dirigé l'édition dans la Pléiade des œuvres romanesques précédées des poésies complètes de cet écrivain. Il nous fallait bien un spécialiste de l'envergure de Claude Leroy pour nous emmener sur les pas de l'insaisissable Blaise Cendrars.
Chacun a son démon, j'avais le démon du voyage. J'avais le démon du voyage. En réalité, c'est clairement chouette de voyager, se tremper dans un million de lieux différents, boire des pays comme boire des cocktails, n'est-ce pas? Et puis faire surtout pas mal de mixtures, alors comme shaker, les moyens de transport de l'époque étaient magnifiques.
Boire des pays comme on boit des cocktails, le démon du voyage. Sur ce point, Blaise Cendrars ne raconte pas d'histoire. Il l'avait, le démon du voyage, Claude Leroy.
Ah oui, il l'avait, oui, le démon du voyage ou démon du départ. Peut-être encore plus précisément que le démon du voyage. Ce qu'il aimait d'abord dans le voyage, c'est le fait de partir. Ouais. Partir. Tout laisser, s'en aller. Voilà. Ça, c'était grisant pour lui. Le voyage commence dans l'euphorie. Une euphorie qui peut être mêlée de tristesse, naturellement, parce que le départ ressemble souvent chez lui à une fuite. N'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui est dans l'obligation de partir. Il y a cette euphorie et en même temps, il y a une tristesse. Dès le début du Transsibérien, à la fois, il est joyeux de partir et en même temps, il dit aussitôt sa tristesse. Mmh.
L'un de ses livres, les plus connus, s'intitule « Bourlinguer ». Ce mot lui correspond bien et il ne l'a pas inventé, mais il l'a popularisé. C'est à lui qu'on le doit.
Il se l'est approprié, on peut dire, effectivement. La bourlingue à la Cendrars, c'est une chose difficile à, c'est au cœur, c'est difficile à définir, mais c'est au cœur, effectivement, de son rapport au voyage. C'est pas un voyageur professionnel, Cendrars, n'est-ce pas? C'est pas un diplomate, c'est pas un journaliste, même s'il l'a été dans les années 30. Mais le voyage commence bien avant le reportage chez lui. Donc le voyage chez lui, c'est pas non plus un passe-temps. C'est pas du tout un délassement. Il y a rien du touriste chez lui. C'est une manière d'être. C'est une attitude fondamentale. Il est en voyage. Je suis en voyage, dit-il dans le Transsibérien. J'ai toujours été en route. Je suis en route, j'ai toujours été en route. Je suis en route avec la petite Jeanne de France. Et sa façon d'être en route, justement, ça n'est pas de se donner un but précis. Le plaisir n'est pas dans la destination et dans l'installation dans un autre lieu. Il est précisément dans le mouvement. Ouais. Dans la partance.
Alors, on va le voir, ce mouvement perpétuel emprunté par Blaise Cendrars. Quel auteur était-il ? Vous trouvez qu'il n'est pas encore aujourd'hui suffisamment connu, reconnu, à sa juste mesure, cet auteur ?
On peut dire qu'il a été longtemps distraitement reconnu. C'est Malraux qui disait cela de lui. Je crois qu'effectivement, la distraction a un petit peu cessé, elle s'est réduite aujourd'hui. Il est dans la Pléiade, ce qui est quand même un signe de notoriété aujourd'hui et de reconnaissance. Simplement, il provoque des réactions assez contrastées. D'une part, il a tout fait pour que son personnage soit très visible, soit très présent. Il l'a surexposé d'une certaine façon. Et on l'a pris un peu au pied de la lettre. On l'a considéré comme un aventurier plus qu'un écrivain, comme un touche-à-tout plus qu'un créateur. Et ma foi, comme un mythomane, comme quelqu'un qui raconte beaucoup de mensonges ou de bobards ou de craques.
Bon, ce qu'il était un peu un mythomane, soyons clairs quand même. On l'a peut-être un peu trop pris pour un homme de coup d'éclat et pas l'homme d'une œuvre littéraire, à tort.
Oui, mythomane, mais alors au sens que donnait Henri Michaux à ce mot. Pour lui, la mythomanie, c'était la passion du dégagement. Et Sandrard a la passion du dégagement. Voilà. Quand tu aimes, il faut partir. Ouais. C'est un vers de lui et c'est une sorte de profession de foi. Ouais. Quand tu aimes, il faut partir. C'est étrange tout de même, mais c'est quand même un gros paradoxe. Quand tu aimes, mon Dieu, on pourrait être tenté de rester. Ouais. Non, chez lui, il faut partir.
Alors, revenons un petit peu sur la vie. Il naît en 1887 en Suisse, à La Chaux-de-Fonds. Il n'est pas encore Blaise Sandrard, hein, puisque de son vrai nom, c'est Frédéric Louis Saussaire. Un père plutôt absent, une mère que l'on dit neurasthénique. Elle lui aura transmis, si j'ai bien compris, une chose, sa mère, c'est le goût des livres et de la lecture.
Oui, c'est tout ce que j'aurais eu d'elle, dit-il. C'est à la fois peu et c'est immense, naturellement. L'amour des livres, elle lui a appris à lire. Elle le prenait sur ses genoux, dit-il, pour lui apprendre à lire. C'était le seul câlin, en somme, qu'il a reçu d'elle. Ce qui fait que la lecture et l'écriture seront toujours effectivement ambivalentes d'une certaine façon. Voilà, écrire c'est peut-être abdiquer, il faut plutôt vivre, n'est-ce pas? Et dans la lecture, il y a le souvenir de ce manque initial de la mère. Elle était là, mais elle n'était là que pour la lecture. Et donc, la lecture lui rappelle d'une certaine façon, effectivement, le défaut de la mère.
Et il aura un lien un peu compulsif à la lecture. Quand il aime un auteur, il le lit entièrement, intégralement, il épuise l'auteur qu'il apprécie.
Il le dévore, il l'épuise, effectivement. Oui, c'est comme ça qu'il aime aussi être lu, je pense. Ouais. C'est un dévorant.
Alors en 1904, il a 17 ans, il est encore tout jeune, il part en Russie. C'est un grand voyage pour un si jeune homme à l'époque.
On peut même s'étonner, je dois dire, surtout à cette époque-là, de voir ses parents expédiés si loin de la Suisse, hein, si loin de Neuchâtel. Donc un tout jeune homme qui ne parlait pas russe, oui. Dans un monde, mon Dieu, tout à fait inconnu. Et voilà, ils se sont débarrassés de lui d'une certaine façon. Oui.
Alors des années plus tard, quand on lui demandera à Blaise Sandrard comment s'est passé ce premier départ, comme toujours, l'insaisissable Blaise Sandrard s'arrangera un peu avec la vérité.
Revenons à votre brique biographie et à cette rupture définitive avec la vie bourgeoise que vous deviez accomplir à Neuchâtel, en Suisse, une nuit de votre 16e année en 1902. Ce dessin de fuite, l'aviez-vous mûrement préparé?
Jamais de la vie.
Vous ne l'aviez pas préparé?
J'ai raconté tout au long, j'ai rien préparé du tout. Je suis parti un beau matin parce que j'en avais assez.
Ben vous ne pouviez pas supporter les entraves qu'apportait votre père à votre appétit de liberté.
Jamais de la vie, pauvre papa.
Mais est-ce qu'on peut penser que si votre mère, qui était une étrange et séduisante créature, avait été vivante, vous auriez hésité à vous
Mais
lancer
elle était vivante, ma mère.
Elle était vivante.
Diable. C'est le seul repos que je me suis jamais fait.
En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que vous partiez sans but défini.
Je partais, parce que j'avais envie de m'en aller, j'en avais marre.
Vous partiez sans but défini et sans espoir de retour.
Je suis parti vers l'Est, parce que le premier train à passer m'amenait vers l'Est. Mais si ça avait été un train qui m'y menait vers l'Ouest, j'aurais débarqué à Lisbonne, j'aurais fait l'Amérique au lieu de faire la Chine, est-ce que je sais.
Blaise Sandrard répondant sans ménagement à Michel Manol, écrivain qui faisait aussi des interviews radiophoniques. Alors, je ne sais pas quelle relation liait ces deux hommes, mais c'est assez savoureux. On retrouvera tout au long de cette émission plusieurs extraits de ces interviews. Effectivement, il lui répond sans ménagement. Et qu'est-ce qu'il dit de vrai dans ce départ? Finalement, ce sont ses parents qui l'envoient un peu de force, un peu en punition, parce qu'il a de mauvais résultats à l'école. Oui. C'est pas vraiment une fuite, là, il est un peu...
Non, c'est pas une fuite du tout. Enfin... Il était à l'école de commerce de Neuchâtel, il était, semble-t-il, peu assidu, beaucoup d'absence, etc. Il aimait pas ça du tout. Il a poussé ses parents, effectivement, à l'envoyer en Russie, oui, sans aucun doute. Alors il a transformé ça ensuite, ce qui est un départ qu'il souhaitait, il l'a transformé en fuite, effectivement. Hein, il raconte dans Vol à voile comment il était enfermé pour mauvaise conduite chez ses parents, comment il est sorti par la fenêtre et comment il a pris le premier train qui... Bon, bref.
Comme une fugue. Alors
comme une
fugue. Ça n'est pas une fugue.
C'est une fable des origines, n'est-ce pas, que l'approche du Transsibérien et Vol à voile, ce sont deux fables, deux textes qui dialoguent et qui établissent une sorte de fable des origines. Au départ, il y a la fugue. Mmh. Et toute la vie se construit en forme de fugue, toute sa vie ensuite.
Alors vous me parlez de la prose du Transsibérien, qu'il écrira en 1913, mais certainement en s'inspirant de ce voyage qu'il a fait en Russie, un peu plus jeune. Je vous propose d'écouter un extrait du Transsibérien, lu par un certain Bernard Lavillier.
À partir d'Irkoutsk, le voyage devint beaucoup trop lent, beaucoup trop long. Nous étions dans le premier train qui contournait le lac Baïkal. On avait orné la locomotive de drapeaux et de lampions. Et nous avions quitté la gare aux accents tristes de l'Imo-Tsar. Si j'étais peintre, je déverserais beaucoup de rouge, beaucoup de jaune sur la fin de ce voyage. Car je crois bien que nous étions tous un peu fous. Et qu'un délire immense ensanglantait les faces énervées de mes compagnons de voyage. Comme nous approchions de la Mongolie, qui ronflait comme un incendie, le train avait ralenti son allure. Et je percevais dans le grincement perpétuel des roues les accents fous et les sanglots d'une éternelle liturgie. J'ai vu. J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'Extrême-Orient et qui passaient en fantômes. Et mon œil, comme le fanal d'arrière, court encore derrière ces trains.
Un extrait donc du Transsibérien, lu par Bernard Lavillier. C'est un extrait parce que c'est un très long poème en prose qu'il nous a écrit, Blaise Cendrars. Il l'a pris ou pas, ce Transsibérien ?
Oui, ça c'est la vieille histoire, n'est-ce pas ? Et on connaît, parce qu'elle a souvent été rapportée, sa réponse à Pierre Lazareff, le grand journaliste, qui l'interrogeait, qui lui disait « Bon, Blaise, finalement, raconte-nous, est-ce que tu l'as vraiment pris, le Transsibérien ?» À quoi Cendrars aurait répondu « Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque je vous l'ai fait prendre à tous ?» Bon, fin de non-recevoir, et en même temps, il faut bien dire que c'est bien situer les choses. Qu'importe que Cendrars, d'une certaine façon, soit un voyageur. Ce qui compte, c'est qu'il fasse voyager ses lecteurs, n'est-ce pas ? Et c'était exactement ce qu'il a répondu à Lazareff. Dans les faits, il n'a pas pris le Transsibérien.
Vous en avez la certitude ?
Écoutez, pendant tout son séjour en Russie, il correspond avec son frère qui est resté au pays, son frère aîné, et il lui dit ce qu'il fait. Et il n'y a jamais de voyage en Transsibérien. Il y a un projet, à un moment donné, et puis le projet tourne court. Ouais. Donc oui, on peut dire effectivement que le voyage, il l'a pris, mais par la plume et par l'écriture en France.
C'est l'homme des mystères et des fausses pistes. Il y a aussi cette histoire de poème qu'il dit avoir écrit, un poème révolutionnaire, qu'il a cloué au fond d'une caisse. On ne sait pas trop où est la caisse. Ce poème, on le trouvera un jour.
Je crois qu'on l'a trouvé, hein, d'une certaine façon. On le trouve effectivement dans ses œuvres. Le poème, c'est le mythe du poème qu'il a lui-même élaboré. Hein. Il n'a pas d'autre existence, à mon avis, que dans le langage même de Cendrars. Ça fait partie justement de sa bourlingue ou de sa façon de faire voyager son lecteur.
Qu'est-ce qu'il a apporté à la poésie, une certaine modernité, hein, quand même. C'est avant tout un poète, Blaise Cendrars.
Oui, c'est un poète. Il s'est toujours défini comme poète, même quand il a cessé d'écrire des poèmes. Oui, effectivement. Ce qu'il a apporté, alors, il a apporté, d'après ce qu'il dit lui-même, un certain souffle, le souffle du monde entier. Et c'est vrai que ces trois premiers grands poèmes, hein, les Pâques à New York, la prose du Transsibérien et puis le Panama, ce sont des poèmes du grand voyage. Ce sont des poèmes du monde entier, c'est sous ce titre qu'il les réunit. Et donc il s'est fait connaître, quand il s'est fait connaître à Paris, parce qu'il voulait, lui, Suisse, quitter la Suisse et puis s'installer à Paris d'abord. C'est là qu'il fallait être quand on aime la poésie française. Il fallait justement se faire connaître comme celui, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on ne saura jamais saisir. Il est de passage, il est fondamentalement de passage. Morand l'appelait le Suisse errant, n'est-ce pas ? Bon, oui, c'est joliment trouvé. parce qu'il y a quelque chose, effectivement, d'une dromomanie, il est toujours en mouvement, et d'une malédiction, comme le juif errant, le suisse errant est contraint de repartir en sabbat. Quand tu aimes, il faut partir. Mmh. On peut insister sur le « il faut ».
On l'écoutera même un peu plus tard dans l'émission, ce poème auquel vous faites référence. Alors 1912 pour les Pâques à New York, 1913 pour la prose du Transsibérien. Nous sommes donc à l'aube de la Première Guerre mondiale. Rien n'obligeait Blaise Sandrart à s'engager en tant que Suisse. Mais il va partir à la guerre et ça aura des conséquences sur le reste de sa vie et de son œuvre. Nous allons voir pourquoi dans un instant avec vous, Claude Leroy, le temps d'un bivouac sur les pas de Blaise Sandrart.
Eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.
C'était After the Storm, Kali Hutchis sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Seul face à l'ennemi, ça fait grimper le trouillomètre, mais c'est bon. Et si je me fais gauler par le Boche, ça règle l'affaire. La faucheuse, elle m'assène son coup et c'est définitif. Pourquoi diable j'en réchapperais ? Moi, le poète qui bourlingue, avec mes pagues hallucinées et mon transsibérien... On peut dire que j'avais bien commencé. Ça, oui. Ça a bougé. J'ai pas rêvé, non. La tête du mec. Et là, l'épaule en joue. Merde. Merde, cette fois, je suis allé trop loin. Je déconne sec, là. Si je m'en sors cette fois... Il va m'entendre respirer. Ça cogne dans ma poitrine. Sauvé. Je suis fou de la folie des poètes. Mais la place du poète n'est-elle pas au milieu des autres hommes ?
Extrait de Autant en emporte l'histoire, diffusé le 25 mars dernier. L'émission de Stéphanie Duncan proposait sur France Inter une fiction qui retraçait l'engagement de Blaise Cendrars dans la Première Guerre mondiale. Claude Leroy, Blaise Cendrars a 27 ans quand il part à la guerre. Il est suisse, hein, on l'a dit, donc rien ne l'oblige à aller au combat. Pourquoi s'engage-t-il dans la Légion étrangère ?
Bon, c'est difficile à dire, hein, parce que lui-même a... est revenu souvent sur cet engagement. Il a dit des choses assez différentes, il faut bien dire, ou contradictoires. D'abord, Suisse était, on peut dire que c'est un mauvais Suisse, en toute sympathie naturellement pour la Suisse. C'est un mauvais Suisse parce que quand il part pour la Russie et quand il part, il revient ensuite, pas en Suisse, il va aux États-Unis, puis il vient à Paris, bref. Donc c'est un Suisse en rupture de pays, n'est-ce pas, qu'il considère comme étroit, comme conformiste, etc. La France l'a accueilli comme un poète, effectivement, comme un poète du monde entier, très très vite, comme quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui apporte l'ailleurs avec lui. Pourquoi s'est-il engagé ? Alors, il y a bien sûr un texte qu'il rédige avec l'écrivain italien Ricciotto Canudo pour inviter donc les écrivains et les artistes vivant à Paris à s'engager pour donner leur bras. C'est écrit, n'est-ce pas, dans ce texte, leur bras à la France, leur nouveau pays. Formule terrible, terriblement prémonitoire. Ensuite, plus tard, quand il reviendra de la guerre, mutilé, et qu'il écrira beaucoup, effectivement, sur cette période de sa vie, quand on l'interroge, et quand il s'interroge sur ce qui l'a poussé à s'engager, il apporte des réponses qui sont parfois un peu gênantes. Et notamment, il dit « Je déteste les Boches. Je détestais les Boches. Je me suis engagé par haine des Boches. » Bon. Sans doute faut-il remplacer n'est-ce pas, une telle déclaration dans le contexte de l'époque. Le mot « Boche mm-hmm. » déjà appartient à cette époque-là. On peut se demander s'il n'y a pas dans cette déclaration quelque chose qui relève effectivement de son inquiétude profonde, de son inquiétude en ce qui concerne son identité profonde.
Alors son identité, elle va évoluer lors de cet événement, de sa participation à la guerre, puisqu'en septembre 1915, il est grièvement blessé. Vous y faisiez référence en disant il a vraiment physiquement donné un bras à cette guerre. Ah, au oui. cours de la grande offensive de Champagne. Il est gravement blessé au bras droit, il sera amputé. Quel incident cet événement va avoir sur le cours de sa vie ?
C'est évidemment très considérable. Il va écrire beaucoup sur la guerre, mais la guerre a commencé à s'écrire en lui et d'une manière indélébile, on lui prononce ce bras. Donc il sera désormais le poète manchot, le poète de la main gauche. Ça a d'abord été, on peut le comprendre assez aisément, ça a d'abord été vécu comme une catastrophe. Pendant un an et demi après son retour donc à la vie civile, il a mené une vie... Il était marié, hein, il avait déjà deux enfants, il a mené une vie... sinon de mauvais garçons, mais du moins tenté par, d'une part, buvant beaucoup et tenté par le suicide, semble-t-il. Et puis, au bout de deux ans à peu près, en 1917, au cours de l'été 1917, alors qu'il avait fui Paris pour la campagne, qu'il s'était retiré à Méréville pour essayer de se retrouver, il a compris, semble-t-il, quelque chose de tout à fait... déterminant pour la suite de sa vie, il a compris que cette blessure était une chance pour lui. Non pas une petite mort, mais la mort à ce qui était en lui d'homme droit, et la chance, effectivement, tout à fait inouïe, de renaître, en somme, à son autre, de renaître à son homme gauche.
Vous parlez du voyage vers la gauche, il change, hein, il change physiquement, oui. Il change dans sa tête, et... C'est aussi à cette période qu'il cesse la poésie, d'écrire, et il va passer au roman. Alors il va faire un grand voyage au Brésil, et c'est au Brésil que va naître l'idée de son roman le plus célèbre, L'Or. Pourtant, ça se passe pas au Brésil, hein. L'Or, ça se passe en Amérique du Nord, hein, d'abord en Californie, puis ensuite au Mexique. Mais c'est au Brésil, il va parler de sa patrie de cœur au Brésil.
Oui. Alors, il n'a jamais dit non plus très clairement pourquoi il a abandonné le poème, l'écriture du poème. Et il a situé cet abandon en 1917, alors qu'il en écrit jusque au moins 1924. Bref, il y a là une zone un peu étrange, effectivement, d'écriture-non-écriture. Ouais. Mais situer l'abandon du poème à 1917, c'est associer étroitement l'abandon du poème à la blessure. Et à la blessure et au renouveau, justement, en lui, à cette renaissance qui le conduit vers une autre forme d'écriture et qui sera alors qui sera le roman, mais qui a d'abord été le cinéma. Ouais. Il faut bien dire que
mais ça a pas tellement marché, hein, son essai cinématographique.
Non, ça n'a pas marché, mais il croyait que c'est là effectivement que sa blessure, si je puis dire, il le dit dans une formule très troublante. Il dit, je me suis jeté à corps perdu dans le cinéma. À corps perdu. Et puis, bon, le cinéma ne lui a pas rendu, effectivement, ce qu'il en escomptait, et c'est un cinéaste manqué que Sandrard. Et ce désir de cinéma, il le transpose dans l'écriture. On a souvent dit que L'Or, auquel vous faisiez allusion, l'écriture de L'Or, est une écriture qui est imprégnée de cinéma, qui est faite pour le cinéma.
Je vous propose de l'écouter, Blaise Sandrard, toujours interrogé par l'écrivain Michel Manol au sujet de l'écriture de L'Or.
J'ai trimballé L'Or 10 ans dans ma tête et un beau jour je me suis mis.
Vous avez transporté au
Brésil. Je devais donner un roman à Grasset, c'était Moravagine, pour lequel roman j'avais traité. Et comme la fin de l'année arrivait et que je tenais absolument à réveillonner à Paris, n'ayant pas le sou, j'ai pondu L'Or en 6 semaines. Voilà pourquoi je l'ai écrit sous cette forme-là. J'aurais pas pu l'écrire en 6 semaines.
Mais c'est un roman.
Si je ne l'avais pas transporté dans mon ciboulot durant des années et des années, envisagé de l'écrire sous toutes les formes possibles, imaginables.
Vous l'avez écrit au présent de l'indicatif pour finir.
Oui, à la fin, oui.
Cette façon de...
Claude Leroy, Blaise Sandrard, cette façon très désinvolte de parler de la façon dont il a pondu L'Or, hein, ce sont ces termes, alors que c'est son roman qui connaîtra le plus grand succès et qui est encore aujourd'hui le plus connu.
Oui.
Il cabotine un peu, là ou...
Il cabotine certainement un petit peu. Il montre un peu trop, effectivement, qu'il ne veut pas être dupe. Dupe de lui-même, dupe de... Mais enfin, il sait très bien, effectivement, ce qu'est L'Or et ce qu'il est lui, n'est-ce pas ? Il ne doute pas du tout, effectivement, de sa passion de l'écriture et du fait qu'il est un grand écrivain.
Il a été surpris par le succès de L'Or, quand même, ou il s'attendait à cette reconnaissance du public ?
Non, c'est difficile à dire, hein, mais ça lui est tombé dessus. Ça lui est tombé dessus, mais ça lui est tombé au bon moment, c'est-à-dire que L'Or se passe effectivement, raconte la conquête de la Californie par le général Sutter, un Suisse, hein, au demeurant, comme lui. Mais à vrai dire, cette conquête de la Californie doit beaucoup à son voyage au Brésil.
Oui.
Et en fait, ce qui se passe dans L'Or, c'est ce que Sandrard vit lui-même au Brésil, c'est-à-dire que son propre voyage au Brésil fait de lui, justement, un conquérant d'un autre type, il conquiert le roman. D'une certaine façon.
Sauf que on sent toujours ce goût pour un peu les perdants magnifiques chez Blaise Sandrard, parce que c'est toujours la roche tarpéenne est près du Capitole, hein, en quelque sorte, avec ce personnage qui s'enrichit dans L'Or et puis au dernier moment qui finalement est ruiné. Il aimait bien ses destins un peu fracassés, Blaise Sandrard.
Ben, le sien l'a été pas mal, hein. D'abord cette blessure avec laquelle il a vécu, qui était à la fois une sorte de trophée, si on ose exprimer les choses ainsi, et d'autre part, il faut bien dire, une source de souffrance permanente.
Ouais.
Donc, oui, destin fracassé, à l'image de celui de son père, qui joue un grand rôle aussi dans son monde. Ce père qui est un raté magnifique, effectivement. Et alors que lui, le fils, est devenu un grand poète, certes, mais un poète pas dupe, effectivement. et qui refuse effectivement de jouer le jeu de la poésie.
Alors quel rapport entretenait Blaise Cendrars avec l'écriture? Je vous propose de l'écouter à ce sujet et puis ensuite on tentera avec vous de démêler le vrai du faux.
Écrire, ce n'est pas réellement vivre. Écrire, c'est aujourd'hui, hélas, un gagne-pain. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte 9 fois sur 10. Je n'aime pas du tout écrire. Je ne suis pas le seul parmi les écrivains qui dit ça. Il paraît que Colette également se plaint toujours d'être obligée d'écrire.
Alors là, Claude Leroy, aidez-nous à comprendre. C'est un écrivain quand même majeur et il a l'air de dénigrer complètement ce travail d'écriture. Là, il entretient sa légende, il préfère être vu comme un voyageur aventurier plutôt que comme un écrivain à sa table. Pourquoi il dit ça?
Oui, il entretient sa légende incontestablement, effectivement. Mais sa légende, c'est une chose complexe. C'est aussi un attrape-gogo, un attrape-nigo, n'est-ce pas? Il a beaucoup de mépris pour ceux qui le prennent au pied de la lettre. Et donc, il s'amuse. Il y a un jeu, je dois dire, avec Manol. Vous l'avez noté tout à l'heure. Manol, il le prend systématiquement à contre-pied.
Oui. Ils étaient amis ou pas? On sait quelle relation ils avaient, ces deux écrivains, parce qu'il a l'air de prendre un malin plaisir à le contredire à tout bout de champ.
Mais c'est sa façon d'être interviewé, c'est bien. C'est-à-dire, effectivement, de ne surtout pas répondre aux questions qu'on vous pose, de renverser les affirmations en négations, les négations en affirmations. Oui, il a un art, effectivement, du paradoxe. Oui.
Alors, quel rapport il avait, finalement, à l'écriture, si il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette déclaration? Pour lui, que représentait l'écriture?
Alors, il faut noter une chose importante dans le bouleversement, on peut dire le bouleversement de la connaissance de Cendrars. C'est la découverte de ses archives. De ses archives grâce à sa fille Myriam Cendrars, qui vient de disparaître il y a un mois, et qui recevant les archives de son père, les a vendues dans leur ensemble aux archives littéraires suisses, à la Bibliothèque nationale suisse de Berne, sans les disperser. Et ça a été, il faut bien dire, une révélation pour tous ceux qui s'intéressaient à Cendrars, qui travaillaient sur son œuvre, et qui ont découvert ce qu'on ne savait pas, effectivement, à quel point c'était un fou d'écriture. Quelqu'un qui, très tôt, n'a songé qu'à écrire, qui ensuite l'a masqué par la légende. Mmh. Oui, quand on aime, il faut partir. Écrire, c'est peut-être abdiquer, etc. Il a passé sa vie à écrire. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter aussitôt, c'est que il a une conception de l'écriture qui s'inscrit dans, on peut dire, dans la question plus générale du voyage. Qu'est-ce que voyager pour lui? C'est pas simplement se déplacer, c'est surtout pas se déplacer. Ça n'est pas faire des voyages, c'est être en mouvement perpétuel. Et le mouvement perpétuel, ça peut se traduire par des voyages, mais ça se traduit aussi par des changements d'écriture, par des changements d'occupation, par le fait qu'il abandonne le poème pour le roman pour le reportage, etc.
Oui, parce qu'après la poésie et le roman, Blaise Cendrars va s'essayer au journalisme, de nouvelles occasions de voyager et de s'arranger avec la vérité. Vous allez nous le raconter dans un instant, Claude Leroy. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac sur les pas de Blaise Cendrars.
Au creux des tours, vers l'ombre de la cité. S'allonger, se répand sur les hommes agités.
S'allonger, se répand sur les hommes agités.
Seul dans ce tourbillon aux nuances glacées.
Seul dans ce tourbillon aux nuances glacées.
Je pleure de ne plus voir les oiseaux bariolés, les étoiles et la lune, le ciel de l'été. Mais tout ira bien.
C'était Tout ira bien de Rameau sur France Inter, le temps d'un bivouac.
J'ai fait un reportage à Hollywood, j'ai fait pour le premier voyage du Normandie, j'ai fait...
Vous étiez à bord du Normandie au moment où il a conquis le ruban bleu.
Oui, j'étais à bord.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Vous racontez quoi? J'ai pu...
Eh bien, comment ça s'est fait? Comment vous êtes introduit à bord du Normandie?
Bon, j'ai fait un reportage. Je faisais le voyageur clandestin. J'ai voyagé dans les fonds. Je me suis occupé que des machines. Je me suis pas du tout occupé de ce qui se passait dans les salons dorés. Et c'est grâce aux tuyaux ultra précis que la chaufferie me donnait que j'ai pu annoncer que nous avions gagné le ruban bleu 12 heures avant que mes collègues et confrères français ou américains.
Blaise Sandrard, décidément bien difficile à interviewer par Manol. Donc, alors entre 1930 et 1940, Blaise Sandrard se lance donc dans le journalisme. Qu'est-ce qui le pousse, Claude Leroy, à épouser cette carrière de reporter un temps?
Il y a sûrement des raisons assez variables, variées. D'une part, ils rompent avec le roman.
Ouais.
Il a rompu avec le poème, il rompt avec le roman après Daniac, Mauvaisine et Daniac. Il a une période au début des années 30 de maladie. Pendant deux ans, il ne peut pas travailler. Et puis, il se tourne vers l'enquête. D'abord avec un de ses livres les plus connus aujourd'hui, Rome. Hein. Il commence par une enquête sur Jean Galmot, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, qui marche bien. Son enquête, publiée sous le titre de Rome. Et puis ensuite, la rencontre avec Lazareff est une rencontre heureuse. Et il fait ces quelques grands reportages que vous avez signalés, qui se termineront avec la guerre, parce qu'il est reporter de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la débâcle.
Oui. Alors, effectivement, peut-être c'est même ses reportages peut-être les plus sérieux, les plus engagés, ce qu'il fera à la fin de sa carrière de journaliste sur la guerre. Il en fera des plus légers, il ira à Hollywood, mais en fait, il n'a pas vraiment le goût pour les starlettes et pour le monde du cinéma. Alors, il se livre à une forme de journalisme un peu étonnante, depuis sa chambre d'hôtel, en quelque sorte, où il invente, il crée des rencontres. C'est un peu comme ça qu'il a aussi parfois procédé pour écrire ses articles.
On pourrait se demander si c'est pas là son voyage en Chine. Si vous voulez, le voyage en Chine qu'il n'a pas fait, mais qu'il a raconté cependant, n'est-ce pas, et qu'il a, à vrai dire, fait surtout à la lecture de Victor Segalen. Ce voyage en Chine, il l'a fait à Hollywood, qu'il présente comme une cité interdite. On ne rencontre personne. Ceux qu'il veut voir ne sont pas là. Chaplin, oui, c'est... Bon.
Il prétend l'avoir rencontré, Chaplin.
Prétend, ouais. Oui, bon, mais il n'est pas là, il n'est pas disponible, il ne peut pas le voir, etc., etc. C'est une suite, effectivement, c'est très intéressant comme non-enquête, non-voyage sur un objet qui se dérobe. C'est la cité interdite. Ouais. Le voyage sur le Normandie, effectivement, il l'a fait, et c'est pas simplement une contribution à la légende, il l'a fait dans les soutes.
Ouais.
Donc
ça c'est intéressant parce que il n'était pas obligé de se mettre dans les soutes avec les mécanos, il aurait pu être avec les huiles sur le pont dans les salons luxueux. Oui. Il a choisi de vivre ça avec les petites gens, les techniciens, dans les coulisses.
Il y a un côté bande à part naturellement, loin des mondanités qui se voilà. Bon, mais d'autre part aussi parce que pour lui enquêter, voyager pour une enquête, c'est une façon de vivre. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était la vie de ceux qui faisaient vivre le bateau. Donc, c'est en bas que ça se passait, c'est pas en haut, naturellement.
Et ça lui permettra, du coup, de savoir, en tout cas, racontera-t-il, avant tout le monde, que le bateau est en train de gagner la course dans laquelle il est engagé. Ouais. C'est le fameux ruban bleu dont il parlait dans l'archive que l'on a entendu tout à l'heure. Donc, il a su se mettre au bon endroit pour un journaliste.
Il a su se mettre au bon bon endroit. Et que ce soit évidemment dans le ventre du Normandie, dans le ventre de la bête, comme un nouveau Jonas, hein, ou bien que ce soit à Hollywood, dans une ville qui se dérobe à lui, effectivement, il reste poète. Et il y a peut-être quelques lignes d'Hollywood que j'aimerais vous dire, parce qu'elle montre assez bien quel type d'étrange reporter il pouvait être. Voilà ce qu'il dit. Je ne prends jamais de notes en voyage. Je ne veux pas m'encombrer l'esprit d'une multitude de détails contradictoires. Je ne veux pouvoir rapporter que l'essentiel des choses vues. Un reporter n'est pas un simple chasseur d'images. Il doit savoir capter les vues de l'esprit. Capter les vues de l'esprit. On est là, effectivement, dans le domaine de la transfiguration, de la vie plus vraie que vraie, hein. À l'image de Sandrard, changeant de nom, parce que... On aurait pu dire quelques mots de son pseudonyme, qui est une façon de faire voyager son identité au départ.
Alors allons-y, disez-nous quelques...
Il est né Frédéric Sauzer, Freddy, hein, et même Fritz dans son enfance, ce qui est singulier quand on songe à sa haine des Boches. Hein. Il a abandonné, en somme, c'est un Suisse d'origine alémanique, Sauzer, qui veut dire bourdonneur, n'est-ce pas? Et ce qu'il a combattu, en somme, en changeant de nom, c'est naturellement ce qu'il pouvait y avoir de germanique dans son identité. Et on peut se demander si le combat dans lequel il s'est engagé en 14, ça n'est pas une continuation de cette lutte, effectivement, contre ses origines germaniques.
Mmh. Je vous propose d'écouter, vous avez cité plusieurs fois ce poème de Blaise Sandrard, qui pour vous est assez révélateur de son goût du voyage. Je vous propose de l'écouter et puis ensuite on en discute.
Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant. Quitte ton ami, quitte ton amie. Quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses. Des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre. Et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent. Les montagnes, l'eau, le ciel, la terre. Les enfants, les animaux. Les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant. Ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là. La vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime.
Tu es plus belle que le ciel et la mer. Poème de Blaise Sandrard. Partir, c'est rompre pour Blaise Sandrard.
Partir, c'est rompre. C'est s'en aller, naturellement, comme pour tout le monde, mais c'est rompre. Et il revient ainsi à l'étymologie de partir. Il y a eu deux verbes partir. Il y a celui que nous connaissons, qui est en effet un verbe intransitif. Et puis, il y a eu un verbe transitif, qui existe encore dans les autres langues latines, et qui veut dire couper. Partire, c'est couper. Et le départ, chez Sandrard, est une partition. Il coupe les liens. Et quand tu aimes, il faut partir, c'est dire que tout ce qui est du côté de l'appartenance est du côté du mal. C'est une prison.
Suite et fin de notre voyage sur les pas de Blaise Sandrard, le temps d'un bivouac avec Claude Leroy sur France Inter.
Fais chavir mon corps,
ensemble, chanté par Maya Kamati sur France Inter, la programmation du temps d'un bivouac est signée Djoubaka.
Cet homme, c'était la vie même, Sandrard. Sandrard, c'était un défricheur, c'était un pionnier, c'était une manière de bulldozer de la poésie, c'était une excavatrice, c'était une force de la nature, jamais en place. Blaise Sandrard était admirablement riche. Il inventait partout, il a donné partout, il a donné peut-être même son nom à l'école de Paris à ses amis peintres. Sandrard, c'était une force en ce sens que c'était un jaillissement verbal continu, une espèce de fontaine de vie, une fontaine de jouvence. Et c'est cela qui avait tant surpris un certain nombre de ses compatriotes suisses. Parce que lorsque j'ai trouvé une partie de la famille de Sandrard, et notamment un cousin, et ce cousin était pasteur, et ce que me disait le cousin était assez ahurissant. Il me disait d'à peu près ceci: Fritz Oseral, c'est un menteur. Toutes les histoires qu'il a racontées, elles n'étaient pas vraies. Et il partait, le bon pasteur en était resté à sa notion extrêmement primitive et en quelque sorte myope de la vérité. Il ne pouvait pas comprendre que cette invention, cette espèce d'hallucination verbale de Sandrard, qu'il mettait partout ses accumulations extraordinaires d'adverbes, de phrases, de propositions étonnantes qu'on trouve dans cette description aussi bien de l'Amazone que de la Seine, cela, c'était la vie même, c'était la poésie, c'était Blaise Sandrard.
C'était Arnaud Lanoux, écrivain, parlant avec passion de Blaise Sandrard. Claude Leroy, vous partagez son avis. Au fond, à travers les mensonges de Blaise Sandrard, se dégage une vérité sur l'homme qu'il était.
Nino Franck, un de ses amis, lui, avant de devenir un de ses amis, lui, l'interview et lui demande, mais... Blaise Sandrard, c'est votre vrai nom ? Et Sandrard lui répond, c'est mon nom le plus vrai. Je crois qu'on peut dire que sa vie réinventée, c'est sa vie la plus vraie.
Ouais.
Et quand on aime le voyage, on fait voyage de tout. Et il a voyagé dans sa biographie.
Ouais.
Et il fait voyager dans sa biographie.
Et à la fin de sa vie, il ne voyage plus, il continue d'écrire, il arrête un temps, puis il se remet à l'écriture. Et finalement, ses derniers voyages, c'est par l'écriture qu'il les vit ?
Oui, ben, dans ses volumes de mémoires, n'est-ce pas, qu'ils sont des mémoires sans être des mémoires. Ça, c'est la formule qu'il donne à Manol pour l'emmêler un peu plus, effectivement. Et qui sont des voyages à l'intérieur de sa vie recomposée, effectivement. Qu'on pourrait appeler aujourd'hui une autofiction, hein, ou une automythographie personnelle.
Une automythographie ?
Oui, c'est une formule un peu, bon, rébarbative, mais qui montre bien l'importance du mythe chez lui, et notamment du mythe d'Orion, la constellation d'Orion dans laquelle il a expédié sa main coupée. N'est-ce pas ?
Alors, il meurt finalement assez âgé, hein, le 21 janvier 1961, les dernières années de sa vie, il sera un peu diminué parce qu'il a eu une attaque cérébrale. Quel livre ou poème vous nous conseillez, Claude Leroy, pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Blaise Sandrard ?
Oh, écoutez, on a parlé de La prose du temps sibérien, c'est son grand poème. Hein. C'est effectivement, c'est le poème des commencements. Hein. Mmh. C'est le poème du départ. L'or, évidemment, qui est son roman, qui fait de lui un romancier de l'aventure. Bourlinguer. Bon, et puis tous les autres.
Ouais, voilà, merci à vous Claude Leroy. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Dans l'atelier de Sandrard aux éditions Honoré Champion. Et puis vous avez dirigé dans la bibliothèque de la Pléiade Blaise Sandrard, œuvre romanesque précédée des poésies complètes. Un grand merci à vous Claude Leroy.
Merci pour votre invitation.
Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous verrons comment pourrait s'organiser la vie dans une base martienne. Et à 17h, tous en selle, nous reviendrons sur les plus belles histoires qui ont marqué le Tour de France. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, rendez-vous avec Julia Molcou pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Julia.
Salut Daniel.
Au menu aujourd'hui,
une émission consacrée aux costumiers de cinéma, parce qu'il faut bien les habiller nos acteurs. On en a deux formidables en plateau.
Ah oui, très bien. Qui seront habillés du coup ?
Oui, oui, tout le monde est habillé.
Très bien. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau et Stéphane Boja. Vous écoutez France Inter, il est 18h.